C'est comme quand j'opère puis je dis des jokes là, que les infirmières y ont entendu depuis X années. Puis j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de rire à chaque fois. Là. OK, ce matin, on va commencer une nouvelle série. Ça s'appelle « L'Église, la famille de Dieu ». Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Je découvre à mesure, hein, à peu près une semaine avant vous autres, là, qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Ce n'est pas décidé à l'avance, c'est vraiment en étudiant la parole, en méditant, en priant que Dieu me montre à moi. Puis je suis toujours le premier bénéficiaire, comme tous ceux-là qui apportent la parole. On est toujours les premiers bénéficiaires de ce que le Seigneur veut nous montrer. Fait que ce matin, on commence une nouvelle série, puis ce que j'aime, c'est de prendre un verset thème pour la série. Fait que j'ai choisi ce verset-là dans Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui écrit à des chrétiens à Éphèse, une ville en Asie mineure. Ainsi donc, il dit, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Quand Paul dit « des saints », là, il ne fait pas des références à les saints qui sont canonisés par l'Église catholique. Okay? C'est un terme qui est employé pour tous ceux-là que Dieu a déclarés saints en Jésus-Christ. Fait que c'est autrement dit, concitoyens des croyants, des chrétiens. Okay? Vous n'êtes plus des gens de passage, des étrangers, mais des membres de la famille de Dieu. L'Église est une famille, la famille de Dieu. Puis c'est ça qu'on va, on va étudier ensemble ce matin. Fait que je vous invite à tourner dans vos Bibles, ou si vous n'avez pas de Bible, suivez avec un voisin, ou si vous avez ça sur votre téléphone ou tablette. OK. William, j'ai besoin de ton aide. La Bible, OK. La Bible est là. OK, pour trouver un passage, c'est là. OK, en haut, là. Bon, merci. Excusez, c'est parce que je dois laisser mon téléphone à ma femme ce matin. Donc, je prends le téléphone à William. Éphésiens, chapitre 2. Puis, on est dans le verset 11. À partir du verset 11. C'est pourquoi, dit Paul, vous, autrefois païens dans la chair, non-juifs, dans votre nature, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les juifs, qui le sont en la chair par la main de l'homme. On sait que les juifs se font circoncire au huitième jour. Souvenez-vous, vous qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, des deux peuples, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, l'hostilité, ayant anéanti par sa chair, par son corps, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux peuples, un seul nouveau homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle, par la croix, l'inimitié, l'hostilité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Prions. Ce matin encore, Père, on vient devant toi en toute humilité pour chercher ta face. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Merci pour ton esprit qui nous conduit, qui nous donne l'intelligence de comprendre ta parole. Seigneur Dieu, on te demande de visiter nos cœurs ce matin, de nous parler par cette parole et ton esprit. Je te demande ces choses de la part de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Sauveur du monde. Amen. Donc, ça c'est fait. L'Église, on va voir trois choses ce matin, pardon. L'Église, une famille, le fondement de la famille et comment y avoir accès. Ça va? Ceux qui sont pour? Non. Ici, la phrase sommaire, c'est un résumé en une phrase. J'ai triché un peu ce matin, j'ai mis deux phrases. Mais c'est mon habitude de résumer le message en une seule phrase pour que vous puissiez vraiment saisir qu'est-ce qu'on veut communiquer. La phrase sommaire est celle-ci. Puisque Dieu est le fondateur de sa famille, l'Église, il faut lui être réconcilié et devenir son enfant pour en faire partie. Puis comme j'ai dit, j'ai triché, j'ai rajouté une autre phrase. Dieu veut faire de toi son enfant. Acceptes-tu qu'il soit ton papa? Alors, c'est ce qu'on va voir ce matin. L'Église, une famille. On a vu tantôt que Paul dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous n'êtes plus des étrangers, des passants, des résidents temporaires, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Dans certaines versions, c'est vraiment marqué famille, parce que c'est ça le sens du mot maison. Dans le grec, le mot c'est oikos, qui signifie maisonnée ou famille. Parfois, c'est traduit maison, mais quand c'est vraiment une maison physique, c'est souvent plus désigné avec le terme oikia, qui n'a pas de relation avec IKEA, je suis allé voir. IKEA, savez-vous c'est quoi? C'est les initiales du fondateur avec le pays, la région de la Suède où il est venu, soit dit en passant. Fait que, les gens de la maison, de la maisonnée de Dieu, la famille, vous êtes plus des gens du dehors, vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Fait qu'il y a, on voit là ici qu'il y a un changement. Hein? Il y a un changement. Il y a un avant puis un après. C'est ce qu'on va regarder ce matin. La famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. Est-ce que Dieu est vivant? Vous l'avez vu agir dans votre vie? C'est drôle, hein, parce que des fois, je dis aux gens, je merci Dieu, quelque chose, puis ils partent à rire. Je dis, non, je suis sérieux, Dieu est vraiment vivant. Mais c'est malaisant aujourd'hui de parler de Dieu vivant. Mais Dieu est vraiment vivant. La preuve, c'est qu'il a transformé ma vie, puis il peut transformer la tienne aussi. je vais sortir mes notes. Donc, qu'est-ce qu'une famille? La question pour plusieurs d'entre nous en est une peut-être chargée d'émotions et d'enjeux de toutes sortes. Hein? C'est quoi une famille? Je suis conscient qu'en abordant ce sujet, je vais sûrement toucher à des régions sensibles dans vos cœurs et peut-être à des situations difficiles dans vos relations familiales actuelles. Ça griche, hein? Excusez. Mais je demeure convaincu que le jeu en vaut la chandelle. Puisque c'est la parole de Dieu qui nous éclairera et son esprit, notre guide, pour nous conduire vers des prix verdoyants, des bontés de Dieu pour chacun de nous. Alors, je reviens à la question, qu'est-ce qu'une famille? Et une question connexe très importante, qui a inventé la famille? Donc, j'ai trouvé une définition sur Wikipédia. La famille, au sens large, c'est l'ensemble de personnes ayant avec le sujet un lien de parenté ou d'alliance. Au sens strict ou légal, dans les lois de plusieurs pays, c'est une personne ou un couple et leurs enfants vivant sous le même toit. Pour les questions d'impôts, c'est souvent comme ça. Un anthropologue célèbre, Claude Lévi-Strauss, dit que c'est une communauté de personnes existant dans toutes les sociétés humaines. Intéressant. Elle est dotée d'un domicile et crée entre ses membres une obligation morale de solidarité matérielle entre époux d'une part et entre parents et enfants de l'autre part. Censée les protéger, les enfants, favoriser leur épanouissement social, physique et affectif. Intéressant comme définition. C'est une définition assez large pour inclure, pour englober toute forme de famille qui existe. Et admettons-le, il en existe de plus en plus de variétés de nos jours. Alors, je veux être clair, la présente série ne focalisera pas directement sur les familles humaines, mais sur l'Église en tant que famille, la famille de Dieu. Mais la définition a tout de même des aspects intéressants pour nous à considérer un peu plus loin dans la série. Et ce matin, l'aspect de cette définition-là qui a un impact sur ce qu'on va voir, c'est que c'est la relation entre la personne concernée, le sujet, et le fondateur, le parent. Donc, c'est ça qu'on va voir. Puisque Dieu est le fondateur de cette famille-là, l'Église, eh bien, il faut être en relation avec lui pour en faire partie. On ne peut pas en faire partie si on n'est pas en relation avec le fondateur, qui est toujours là, qui est toujours à la tête de sa famille. Okay? Bon, alors, premièrement, l'Église, une famille, je ne sais pas si j'ai sauté, ouais, c'est ça. Non? OK. L'Église, une famille. Contrairement à ce qu'on pourrait être porté à penser, ce n'est pas les êtres humains qui ont inventé la famille. Dans le contexte ici de notre passage, nous voyons que l'auteur de la lettre à l'Église d'Éphèse, Paul, déclare que l'Église est une famille spirituelle. Et plus tard, il va écrire à Timothée, son protégé, il va dire, « Je t'ai écrit ces choses afin que tu saches, en attendant que j'arrive, comment tu dois te comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant. » L'Église est également comparée à beaucoup d'autres choses dans la parole de Dieu, à un temple. Par exemple, dans ce passage-là, on voit qu'il parle du temple, à un corps, à un poteau indicateur, à une épouse, mais elle est d'abord et avant tout une famille dont Dieu est le Père. Un des faits intéressants qui soutient cette notion est le fait que les membres sont presque invariablement appelés frères et sœurs. D'où vient ça? Bien, ça vient du fait qu'on est enfant d'un même père. On retrouve dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, une référence à la nation juive. Vous avez vu ça, hein? Comme étant le peuple de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, ils étaient clairement identifiés comme le peuple de Dieu, mais on ne retrouve pas dans l'Ancien Testament cette notion que Dieu est leur père. On ne voit pas ça. C'était plutôt une relation, une alliance entre le roi et ses sujets qui avait débuté à travers un homme, Abraham, qui était identifié comme le père de la nation. Donc, les Juifs n'appelaient pas Dieu leur père. Ils appelaient Abraham leur père. Et à travers Abraham, Dieu avait établi une alliance. Et plus tard aussi, à travers Moïse, ils étaient en relation avec Dieu comme son peuple. Mais c'était comme un souverain avec ses sujets. Et des conditions de cette alliance-là, c'est qu'il devait obéir, sinon il y avait des malédictions. S'il obéissait, des bénédictions, on a déjà vu ça. Puis, la preuve, c'est que lorsque Jésus arrive sur scène, les pharisiens, les leaders religieux à l'époque de Jésus, sont scandalisés par ce que Jésus dit, que Dieu est son Père. Et il identifie les pharisiens, Abraham. Il dit clairement dans Jean 8, 39, « Notre Père à nous, c'est Abraham. » Alors, quoi qu'il reconnaissait sur le plan physique que Dieu était le Père par création, par le fait qu'ils étaient tous créatures de Dieu. Mais scandalisé que Jésus appelle Dieu son Père. Et à plus d'une reprise, il voulait le faire exécuter pour ça. Alors, à la venue de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui change fondamentalement, mes amis. Il y a quelque chose qui change fondamentalement. Avant, la venue de Jésus-Christ, c'est le peuple de Dieu, mais ce n'est pas la famille de Dieu. Après Jésus, on a la famille de Dieu. Un jour, Jésus était dans un endroit en train d'enseigner dans une maison. Sa mère et ses frères sont venus le chercher, Marie et ses frères. Et si vous ne croyez pas que Jésus avait des frères, allez voir, c'est mentionné dans les évangiles à plus d'une reprise. Et ses frères et sa mère sont venus le chercher, croyant qu'il était devenu fou. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, ils voudraient te voir. » Mais Jésus leur répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Et il a dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font ce qu'elle demande. » Après sa résurrection, Jésus dit dans Jean 20, 17, « Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » On voit ici qu'il nous met en relation avec le Père. Toute la vie de Jésus, là, on le voit là, quand on pense et on lit les passages en rapport avec ça, avec ces lunettes-là, c'est incroyable. Jésus parle du Père, sans cesse du Père. « Mon Père fait ci, mon Père fait ça, mon Père m'a dit de faire ci, mon Père me montre quoi faire, je fais toujours ce qui plaît au Père. Mon Père qui est aux cieux, il nous enseigne comment enseigner et à s'adresser au Père. » C'est toute la vie de Jésus révèle le Père. Et la Bible nous dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique est venu nous le révéler. » Et elle dit aussi, « Personne ne peut connaître Dieu à moins que le Fils ne le lui révèle. » Si on revient à notre passage ici dans Éphésiens 2, on voit que Dieu fait quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Le vois-tu? C'est marqué qu'il abolit le mur qui faisait une distinction entre le peuple juif et le peuple païen, non-juif. C'est ça qu'on a lu. Qui faisait d'eux des ennemis. Alors, c'est quoi ce mur-là? Il le dit, c'était l'ancienne alliance. La loi de Moïse, Dieu a aboli ça. Quoi? Dieu a aboli l'ancienne alliance de Moïse? Oui, Dieu l'a aboli. De quelle façon? On le voit ici dans le passage. Il dit que Jésus l'a aboli en mourant sur la croix. Vous voyez ça? Excusez, j'ai perdu ma page, là. Oui, mais c'est dans le... Je ne suis pas habitué avec le téléphone, c'est beau. Merci. OK. Donc, au verset 16. Merci. En détruisant par la croix ce qui faisait d'eux des ennemis, au verset 16, afin de les réconcilier. Comment Jésus a-t-il détruit l'ancienne alliance sur la croix? Parce qu'il a accompli toute la loi pendant sa vie, et sur la croix, il a accepté de payer pour toutes les conséquences des gens qui ont brisé cette loi-là. On ne pouvait pas juste tasser du revers de la main la loi de Moïse, là. C'était saint, ça venait de Dieu. Mais la Bible nous dit que la loi de Moïse était comme un professeur pour nous conduire à Christ. Pourquoi? Parce que la loi nous montre qu'on est pécheur. La loi nous révèle qu'on n'est pas capable d'aimer Dieu. C'est quoi le premier commandement? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute pensée. Hein? Puis le deuxième, aime ton voisin comme toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui a réussi à faire ça toute sa vie? Personne. Donc, il fallait que cette loi-là soit accomplie et qu'elle soit abolie. Mais la seule façon de faire ça, c'est que quelqu'un arrive puis qu'il accomplisse la loi parfaitement et qu'il accepte de payer les conséquences de tous ceux qui ont brisé cette loi. Ça veut dire toi et moi. Cette loi-là, que Dieu avait instituée pourtant, faisait une distinction entre le peuple juif d'un bord et le peuple non-juif de l'autre. Soit que tu faisais partie du peuple juif qui, eux, étaient sous cette alliance-là, soit tu ne l'étais pas. Et si tu ne l'étais pas, ben c'est just too bad for you. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il a fait quelque chose de nouveau. Verset 15. « Ayant anéanti par sa chair, Jésus, ça, dans sa chair, dans son corps, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux peuples, un seul homme, c'est un langage figuré, un seul peuple nouveau, en établissant la paix. » Donc, l'Église, c'est quelque chose de nouveau que Dieu fait. Ce n'est pas une continuité. Il y a beaucoup dans l'histoire des chrétiens qui étaient confus par rapport à ça. Israël, l'Église, c'est une continuité d'Israël. Non, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, Dieu a fait des promesses à la nation juive qu'il n'a pas encore accomplies. Et des promesses à David, par exemple, etc. Ça reste. Mais il ne faut pas confondre les deux. L'Église, c'est quelque chose de nouveau qui est fait des deux parties, des deux peuples. C'est une famille reconstituée. Des gens qui étaient proches, les Juifs, mais pas en relation avec Dieu comme Père. Ils étaient proches. Puis des gens qui étaient loin, les non-Juifs, il dit, il les a réunis ensemble. Et ils auraient concilié avec le Père. C'est une famille reconstituée. De nos jours, il y a de plus en plus de familles reconstituées. Hein? Et évidemment, ce n'est pas une situation facile à naviguer, ni pour les parents, ni pour les enfants. Si c'est une situation dans laquelle tu te retrouves ou que tu as vécu, je veux te dire ce matin que Dieu te comprend. Dieu te comprend, parce que Dieu est le papa d'une famille reconstituée. Et Dieu comprend. Et on voit dans l'histoire de l'Église, surtout dans les premiers siècles, ce n'était pas évident. Il y avait des Juifs, il y avait des non-Juifs, des différences culturelles énormes. Et il y avait de la chicane, puis des incompréhensions, puis des tensions et tout ça. Mais cette famille qui est l'Église, c'est une famille merveilleuse, et une famille reconstituée. On va examiner plus loin comment on fait pour faire partie de cette famille-là. Chacun de nous, des non-juifs, même aujourd'hui, on a le privilège, on a l'opportunité d'avoir accès à cette famille-là de Dieu. Quand on parle d'Église, souvent les gens vont penser à quoi? Une bâtisse, hein? C'est ça. Mais l'Église, dans la parole de Dieu, ce n'est pas une bâtisse. C'est les gens. C'est sa famille. On l'a lu tantôt. Donc, ça, on l'a vu. On arrive au deuxième point. On a vu l'Église, une famille. Deuxièmement, le fondement de la famille. Toute famille doit débuter à quelque part. Quel est le point de départ de la famille de Dieu? Est-ce Joseph et Marie? Est-ce les pères de l'Église? Non. Le fondement de la famille, c'est Dieu. On le voit ici dans le passage, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui constitue, qui fonde la famille. Sans Dieu le Père, pas de famille. Il dit au verset 18, Paul, « Car par lui, ou grâce à lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Grâce à lui, grâce à Jésus, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus gens des étrangers, des gens du dehors, mais des concitoyens, voyez-vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes plus des gens du dehors, plus des étrangers? C'est que vous avez accès auprès du Père. Sans le Père, il n'y a pas de famille. Puis sans que tu sois en relation avec le Père, tu ne fais pas partie de cette famille-là. Tu peux être membre d'une église, oui. Tu peux même être membre de cette église-ci et sans être membre de la vraie famille de Dieu. Savais-tu ça? Parce que ça ne dépend pas là, de signer quelque chose ou d'adhérer à quelque chose ou de participer à quelque chose. Clairement, ce qui fait que tu es dans la famille de Dieu, c'est d'être en relation avec le Père. C'est le Père qui constitue, qui fonde sa famille. Sans Dieu le Père, pas de famille. Et je le répète, tu ne peux pas avoir accès à la famille sans être en relation avec le Père. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il tend la main ce matin. Il veut être ton papa. Il veut faire de toi son enfant. Veux-tu l'accepter comme ton papa? La société a beaucoup délaissé et même dénigré le rôle d'un père dans ces dernières décennies. On comprend très bien que les sociétés patriarcales du passé, ça a créé beaucoup de dégâts. Et pourquoi? Parce que les patriarches s'imaginaient que les autres existaient pour les servir. Ils étaient égoïstes, exigeants, distants, orgueilleux. Dans les sociétés gréco-romaines de l'Antiquité, la famille était régie avec un contrôle absolu par le père, et même tous les membres de cette famille lui appartenaient légalement. Évidemment, cela ouvrait la porte à toutes sortes d'abus possibles et notre propre société occidentale, y inclut l'Église, a été largement influencée par notre héritage culturel gréco-romain, avouons-le. Mais le problème ne réside pas avec la notion d'un père, mais avec la nature déformée et tordue d'un père. Un père égoïste, centré sur lui-même. Comme pour toutes les autres bonnes choses que Dieu a créées, l'être humain a la fâcheuse tendance de les déformer, de les dénaturer et d'en faire un paquet de dégâts. Et je répète souvent cette phrase à moi-même, puis à d'autres. Vous savez que dans la vie, vous n'avez pas besoin d'être très, très méchant pour blesser les autres. Tu n'as pas besoin d'être très, très méchant pour blesser plein de monde. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de penser à toi-même en premier et tu vas blesser plein de gens. Pense à toi-même et tu vas blesser plein de gens autour, tu vas faire plein de dégâts autour. Et c'est ça qui est arrivé avec la notion d'un père. Ce matin, quelle a été ton expérience avec ton père naturel? Je sais que plusieurs d'entre vous souffrent d'avoir eu soit un père autoritaire, soit exigeant ou dur, ou carrément méchant et abusif. D'autres ont eu des pères froids, distants, incapables de démontrer l'affection naturelle. Peut-être que tu as eu un père préoccupé ou absent, ou peut-être un père égocentrique ou esclave d'une dépendance quelconque. Peut-être que ton père t'a rejeté totalement ou même renié carrément et coupé toute relation. Bon, pourquoi je parle de ces choses-là? Parce que notre relation avec notre père naturel, notre père terrestre, influence notre vision du Père céleste. Et ce matin, je veux te dire que si tu as eu une relation difficile, douloureuse avec ton papa, ou si tu n'as pas eu du tout, Dieu te voit. Et Dieu comprend. Il sait par où tu as passé. Et Dieu veut t'accueillir, t'aimer, te restaurer. Il veut te montrer c'est quoi un vrai papa. C'est quoi un bon papa. Mais je sais que tu peux être réticent parce qu'une fois blessé, on est échaudé, pas vrai? Quel genre de Père est Dieu? Quel genre de Père est Dieu vraiment? Est-ce que Dieu est comme ton Père que tu as eu, qui t'a blessé? Tu veux savoir comment il est vraiment Dieu comme Père? Philippe, le disciple de Jésus, un jour a demandé à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père. » Et Jésus de répondre, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je parlais avec un monsieur il y a quelques années, puis il me parlait de Dieu d'une certaine façon. Puis j'ai dit, Frank, il s'appelait Frank, j'ai dit, Frank, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. J'ai dit, tu as déjà écouté les films sur Jésus? Il dit, oui. J'ai dit, Jésus, il nous montre comment il est le Père. Tu veux savoir comment il est le Père? C'est comme ça. Jésus était compatissant, patient, présent, bienveillant. N'est-ce pas? Jésus nous révèle le caractère du Père. On peut passer notre vie avec plein de mauvaises notions sur le Père, et même, on sait qu'il y en a un qui veut nous souffler des mensonges à propos du Père. Et ça résonne dans mon cœur, ça résonne dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'on a vécu des mauvaises choses dans notre relation avec notre papa. Et là, il arrive quelque chose de mauvais dans ta vie. Là, l'ennemi te dit, garde, tu vois là, tu vois, tu vois-tu là? Dieu t'a abandonné. Ou Dieu, il n'est pas intéressé à toi. Ou Dieu, c'est un menteur. On ne dira pas à voix haute, là. Mais c'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est Jésus qui nous révèle le vrai caractère du Père. Ce genre de Père, un Père aimant, tendre, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, compréhensif, doux, mais droit en même temps. Les psaumes 103, versets 13 et 14, dit « Comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. » Il sait, regardez ce qu'il dit, « Il sait de quelle part nous sommes façonnés, il se rappelle que nous sommes poussière. » Ça ressemble-tu à un Dieu qui est là, puis qui est exigeant, dur, méprisant? Non. Il sait que nous sommes poussière. Ça veut dire qu'il sait que nous sommes faibles. Il est conscient de nos faiblesses. Il est conscient de qui tu es, de tes limites. Il ne te poussera pas au-delà de tes limites. C'est un Père compréhensif. Il se rappelle. Un des plus grands besoins, à mon avis, et dans la vie de plusieurs, un des plus grands besoins de chaque être humain, c'est d'avoir un papa qui les aime sincèrement. Un papa qui les aime sincèrement. De là découle ton identité, ta valeur, ta sécurité. Et si ça a été brouillé, ça a été tordu, ça a des répercussions dans ton cœur. Ça a des répercussions dans ta vie. Moi, j'ai eu un très bon papa. Un papa qui m'aimait, un papa stable, fiable, pourvoyeur, présent, un modèle de fidélité à sa femme, un papa que j'aime, il est parti maintenant, ça fait une vingtaine d'années. Il me manque encore. Mais il y avait un défaut, c'est qu'il était incapable d'appliquer la discipline correctement dans sa famille, de sorte qu'il n'a pas réussi à me protéger, moi, de mon grand frère qui était vraiment abusif physiquement et verbalement avec moi. Il n'a pas été capable. Et moi, dans mon cœur, ça criait, « Arrête-le! Arrête-le! Pourquoi tu n'es pas capable de le discipliner, lui, là, pour qu'il arrête de me faire mal? Pour qu'il arrête de me sauter dessus? Pour qu'il arrête de me traiter de toutes sortes d'affaires? Pourquoi tu n'es pas capable? » Je suis vulnérable, moi. Il y a 4 ans de plus que moi. Il me varge dessus. Il me crache dessus. J'arrivais de l'école, il me sautait dessus, il me pinait, puis il laissait couler la bave dans ma face. Là. Pourquoi tu n'es pas capable de me protéger? Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma vie, lorsque je me retrouve dans une situation menaçante, qu'est-ce qui se passe? Je vis de l'anxiété. Je vis de l'anxiété. Là, mon père, il est où, là? Il est où, mon père, pour me protéger, là? Je me sens vulnérable. C'est juste avec les années que j'étais capable de mettre des mots sur ce qui se passait dans mon cœur. Et je sais que c'est pareil pour toi ce matin. Tu arrives des situations, ça va mal, tu es tout à l'envers, tu ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui se passe. Oh non, non, ça va bien, l'extérieur, tout est beau. Mais en dedans, ça bouillonne, en dedans, tu es tout renversé, tu es bouleversé. Pourquoi? Il y a des pensées négatives qui amènent, qui s'amènent, des comportements qui découlent de ça. Tu dis, les autres te regardent aller, puis pourquoi il réagit de même? Pourquoi tu as réagi de même dans cette situation-là? Dans ton milieu de travail, dans ta famille, dans la famille de l'Église. L'Église, c'est une famille. On vient tous de quelque part, pas vrai? Quelle sorte de Père est Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il nous aime. Il t'aime. Il t'aime. Peut-être que tu as eu un papa qui ne t'aimait pas, ou tu n'étais vraiment pas certain, ou tu ne l'as jamais dit. Dieu, il t'aime. Il dit dans sa parole, « Je t'aime ». Il écoute ses enfants. Il est attentif. La parole de Dieu dit que Dieu penche l'oreille. C'est une écoute active. C'est une belle image, hein? Il penche l'oreille. Il instruit et il met des limites. C'est important de mettre des limites. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il protège. Il pourvoit aux besoins présents. Il est prévoyant pour l'avenir. Il encourage. Il pardonne. Il respecte. Wow, j'aimerais être un papa comme ça. J'ai essayé. Maintenant, c'est trop tard. Mes enfants sont tous grandis. Je leur ai demandé pardon pour mes manquements. Mais Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Et Jésus est venu pour nous montrer exactement quelle sorte de papa est Dieu. Dans sa relation, c'est une relation de père-fils. Et c'est tellement beau de voir Jésus aller dans la confiance dans son Papa céleste. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la trahison de son ami Judas. Jusqu'à être devant Pilate, devant le souverain sacrificateur juif, devant Pilate, ce qui est faussement accusé. Et il s'en va vers la mort. Là. Est-ce qu'il va faire confiance encore à son papa? Il fait confiance encore à son papa. Et toute sa vie a servi d'instruire à ses disciples, « Faites confiance à mon Père. Il est digne de votre confiance. » Parce que le Père se soucie de ses enfants. Il prend soin d'eux. Il est présent au milieu d'eux. Vous avouez que ce n'est pas toujours le cas dans mon cœur, là. J'ai encore de la place à grandir dans ma relation avec Dieu, mon Père. Des fois, je me sens abandonné. Des fois, je vis de l'anxiété, comme je vous disais. Des fois, je ne suis pas sûr du tout si Dieu m'aime. Je vous l'avoue, Dieu est intentionnel dans ses interactions avec nous. Il s'implique, il n'est pas absent. Mais en quelque sorte, la Bible dit que nous sommes tous orphelins. Pourquoi orphelin? Parce qu'au départ, Dieu a créé Adam et Ève. Il était en relation avec eux comme un père. À un moment donné, ils se sont détournés de Dieu, se sont révoltés contre Dieu. Ils ont choisi de suivre Satan. Et qu'est-ce qui est arrivé? La relation a été coupée. La relation a été coupée. À quelque part, chacun de nous, toi, moi, les autres, on traîne une identité d'orphelin. On traverse la vie comme des petits orphelins qui sont coupés avec leurs parents, qui sont coupés avec leur papa. La Bible le dit. Des gens sans père spirituel. Nous sommes séparés, éloignés de Dieu depuis que nos premiers ancêtres ont commis des offenses à son égard et ont choisi leur propre voie et ils nous ont transmis cette nature qui est indépendante, qui veut rien savoir, qui veut faire sa voie. Un orphelin, c'est quelqu'un qui cherche toujours sa place et qui cherche toujours son identité. Et on est tous comme ça. La bonne nouvelle, c'est que tu peux retrouver ton identité. Tu peux retrouver ta place avec Dieu. Ce matin, c'est comme si Dieu te tendait la main. Tu viens. Je veux faire de toi mon enfant. La Bible déclare que Dieu aime les orphelins. Il dit, chantez à Dieu, célébrez-le par vos chants, louez son nom, frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Il a pour nom l'Éternel. Réjouissez-vous devant lui, il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Dieu s'identifie comme ça. Quel genre de père est-il? C'est le genre de père qui, pour t'adopter dans sa famille, a été prêt à envoyer son seul fils, Jésus, et ce fils-là a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix pour payer pour tes offenses afin de te réconcilier. C'est ça le genre de père qu'il est. Aimerais-tu avoir un père comme ça? Aimerais-tu faire partie de sa famille? Comment on fait? Fait que là, on arrive au troisième point. On a vu l'Église, une famille, le fondement de la famille, c'est Dieu. Comment on fait pour faire partie de cette famille-là? Regardons, je vous invite à retourner dans le texte, parce que ce n'est pas mes idées. Je ne vais pas enseigner mes idées ce matin. Je vais vous enseigner ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Il dit, « Souvenez-vous que, au verset 12, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Le portrait que Paul dessine ici, des gens auxquels il parle, il dit, vous étiez privés d'accès à la famille de Dieu. C'est ça notre état naturel. La Bible dit que par nature, par naissance, nous sommes tous exclus. Car tous, la Bible dit, ont péché et sont privés de la gloire, la présence glorieuse de Dieu. Sont exclus, tous. C'est ce que nous sommes par nature, par naissance. Nous sommes sans Christ, nous sommes étrangers, nous n'avons pas de droit de cité, pas de droit d'accès, nous n'avons pas de droit de faire partie du peuple de Dieu. Nous sommes sans Dieu et sans espérance dans le monde. Vous vous rappelez la série sur l'espérance, hein? On a dit sans Dieu, là, il n'y en a pas vraiment d'espérance. Sans Dieu, c'est ça notre état, c'était ça leur état. J'ai dit, souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là. Donc, il y a vraiment un avant et un après. Il a fallu que Dieu, le Père, fasse quelque chose, comme on a vu, pour changer cet état des choses. Ça prend un changement radical de notre état, de ton état et du mien. Ça prend une nouvelle naissance. Ça prend une naissance spirituelle pour avoir accès à la famille de Dieu. Il nous faut cette naissance surnaturelle. Si vous tournez dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre, Oriane, je pense que je vais te donner ton téléphone, je vais prendre ta Bible. Excuse-moi. Jean, Premier, Évangile de Jean au chapitre 1. J'aurais dû amener ma vraie Bible. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue ou vaincue. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou l'autorité ou le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Donc, il parle de qui ici? Il parle de Jésus, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à la naissance surnaturelle? Il dit que, on est plus loin que ça, il dit que ceux qui accueillent, qui reçoivent Jésus comme étant cette personne-là, cette parole, cette expression de Dieu-là qui est venue habiter parmi nous, ceux-là deviennent enfants de Dieu. C'est ça qui est marqué. Il faut devenir enfant de Dieu. On ne l'est pas à la naissance. Ce n'est pas, qu'est-ce qu'il dit ici, l'Évangile de Jean, Saint Jean dit, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir. Ça veut dire, ça ne vient pas, moi je veux être enfant de Dieu, puis Dieu, il a juste à m'accepter. Non, c'est ni non plus par la volonté d'un homme. Il n'y a personne qui peut dire, OK, maintenant, tu es enfant de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne naissance. Mais comment il donne naissance? C'est marqué dans le verset. Tous ceux qui l'ont accueilli, qui reçoivent Jésus, il faut que tu reçoives Jésus comme ton sauveur à toi personnel. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. On reçoit Jésus. Parce que c'est juste Jésus qui a pu régler la dette que tu avais envers Dieu. Cette montagne de fautes, on a tous une montagne de fautes. Moi, mon frère qui m'abusait, là, ben, à un moment donné, je voulais le tuer. Puis dans mon cœur, je l'ai tué. Donc, peu importe ce que lui a fait, maintenant, c'est moi qui est coupable aussi, là. Je suis meurtrier dans mon cœur. Et ça, Dieu n'accepte pas, n'acceptera jamais des meurtriers dans sa présence, à moins qu'ils soient justifiés par le sang de Christ, à moins qu'ils soient lavés par le sang de Christ, comme on a vu ce matin à travers la chanson sur le savon. Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu dans ton état naturel. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance pour faire partie de la famille spirituelle, une naissance spirituelle. À un moment donné, Jean nous raconte une rencontre entre Jésus et Nicodème. Vous vous rappelez de ça? Nicodème, c'est un leader religieux, un homme de bien, un homme droit, un homme leader dans sa communauté. Il vient voir Jésus, puis... Apparemment, il voulait poser une question à Jésus, il n'a même pas le temps. Jésus dit Nicodème, il le regarde, il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme, une femme, ne naît pas de nouveau, il dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez-vous, si on pouvait accéder à la famille de Dieu en étant une bonne personne, en essayant de toutes nos forces à suivre la loi de Dieu, à faire le bien, bien, cette rencontre-là, là, elle ne se serait jamais passée de main. Qu'est-ce que Jésus aurait dû dire? Nicodème, je vois que tu fais des efforts. Tu es un bon gars. Tiens, continue là, comme ça, en donnant deux, trois tapes dans le dos. Continue de même, là. Rendu l'autre bord, Dieu va tout s'arranger avec ça. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que la Bible dit qu'aucun de nos bons coups, de nos bonnes actions, peuvent effacer nos mauvaises. C'est faux de penser, c'est nulle part dans la Bible, qu'arrivé l'autre bord, Dieu va mettre tes mauvaises actions et tes bonnes actions, puis il va faire l'équilibre, puis bon. Si tu as fait plus, bien là, de bonnes actions, ça va être correct. Non, la Bible dit clairement, il n'y a rien qui peut enlever la tâche de la faute. Moi, dans mon cœur, j'étais meurtrier de mon frère. J'aurais voulu, à un moment donné, très clairement, que quelqu'un me passe un poignard, là. J'étais prêt. Ça s'appelle un meurtre. Ça, j'ai beau avoir été un bon petit gars à l'église, un bon petit gars à l'école, à aider des petites madames à traverser la rue, là, ça efface pas ça. Peu importe ce que j'aurais fait, ça n'a jamais effacé ça aux yeux de Dieu. Il y a juste une chose qui efface ça, c'est la mort. Mais moi, si je meurs, c'est fini. Mais quelqu'un d'autre pour mourir pour moi et m'accorder la vie, le pardon, c'est Jésus. C'est comme ça que ça marche, les amis. C'est comme ça. Il faut devenir enfant de Dieu. Paul dit dans Romains 8, 5, 15, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la crainte sous l'ancienne alliance. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. » Comment on reçoit l'Esprit? Il dit, la parole de Dieu dit, tous ceux qui croient en Jésus reçoivent l'Esprit. C'est cet Esprit-là qui fait la nouvelle naissance. Ce n'est pas en respectant un code. Ce n'est pas en devenant membre d'une église. Ce n'est pas en te faisant baptiser. Il te faut naître. Jésus, quand il a parlé avec Nicodème, il dit, c'est quoi ça, naître de nouveau? Il faut que je retourne dans le ventre de ma mère puis je renaisse. Il dit, non, non. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Étonne-toi pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de l'esprit. Et c'est cet esprit-là qui vient, qui te transforme et qui fait de toi un fils adoptif, une fille adoptive de Dieu. Et c'est par cet esprit-là qu'il dit, on crie, Abba, Abba. Papa. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est une relation intime. Dieu, à ce moment-là, cesse d'être ton juge. Dieu devient ton papa. Et Jésus est la porte d'entrée à la famille de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul, personne ne vient au Père que par moi. » Quelle prétention! C'est quoi qu'il dit là, Jésus? Oh, ben voyons donc! Il y a plein de chemins pour aller au Père. Non, il n'y en a pas. Il y en a un. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul qui règle la question du péché. Toutes les religions du monde vont parler du bien et du mal, pas vrai? Et toutes les religions du monde ont un programme pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Fais ceci, fais des cinq choses, ça là. Fais ceci, fais-toi baptiser, fais ceci. Et peut-être qu'un jour, tu vas être accepté par Dieu. Aucune certitude. Et comme on l'a dit, la Bible dit, désolé, ça ne marche pas comme ça. C'est juste Jésus qui peut prendre la pénalité et t'offrir la vie, la réconciliation avec Dieu. Jésus dit, « Je suis le chemin parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Tu me demandes, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit deux choses. La Bible dit, premièrement, la repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. Ça veut dire quoi, la repentance? Ça veut dire un changement de façon de penser. C'est un changement de direction. C'est de dire, OK, je réalise, Seigneur, que ma vie antérieure jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce point-ci ce matin, ça a été moi, le Dieu de ma vie. Ça a été moi qui gérais ma vie. Ça a été moi qui faisais ce que je voulais, ce que je pensais. Et je ne me souciais pas de ce que tu pensais. Ou peut-être je me souciais, mais je réalise que j'ai fait plein de choses mauvaises à tes yeux. J'ai haï des personnes, j'ai menti, j'ai trahi, j'ai parlé en mal de quelqu'un. J'ai voulu quelque chose qui ne m'appartenait pas. J'ai volé. Et maintenant, aujourd'hui, je reconnais mon état devant toi. Et je veux changer. Ça, la Bible dit, c'est la repentance envers Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Ça prend aussi la foi en Jésus-Christ. Donc, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus. Maintenant, Jésus, merci. Merci d'être mort à la croix pour moi, d'avoir pris ma place. Et je veux que tu deviennes mon sauveur, mon Seigneur, et que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Il y a juste toi qui peux faire ça pour moi. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. As-tu fait ça? Pas besoin de répondre. C'est une question dans ton cœur pour chacun de vous. Si ce n'est pas fait, c'est aujourd'hui. Demain, tu ne le sais pas. Demain, tu ne le sais pas. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui qu'il faut faire ça, chers amis. Dieu te tend la main. Dieu te dit, je veux t'adopter comme mon enfant. Veux-tu? J'ai tout fait pour que tu sois mon enfant. Viens, viens. Si tu n'as jamais fait ça, puis tu aimerais ça, que quelqu'un t'accompagne, bien, ça nous fera plaisir. C'est personnel, ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre, comme on l'a dit. C'est vraiment quelque chose de personnel en toi et Dieu, mais on peut t'aider à prier, on peut t'aider à t'exprimer envers Dieu. Prions.